Ma mère a cuisiné de bons petits plats toute sa vie. Elle tenait à ce que nous mangions de bonnes choses, comme cette fameuse omelette au four, ressemblant à un gros gâteau dont elle découpait des tranches. Et le comble du bonheur pour moi, c'était les jours où elle accompagnait ce plat d'une vinaigrette au jus de tomate, parfumée à l'huile d'argan et au cumin. Elle l'a préparée juste pour moi, j'étais la petite dernière chérie. Plus tard, j'ai essayé de la refaire. C'était bon, mais il manquait quelque chose. Peut-être le soleil qui, entré par la fenêtre de la cuisine, traversait la pièce pour illuminer ma potion magique. Peut-être l'amour d'une maman qui prépare avec tendresse une recette pour sa petite fille. Peut-être la petite fille.
Des mots pour dire la cuisine maternelle. Des mots pour raconter comment une saveur, un souvenir gourmand, une recette construisent et nourrissent une mémoire familiale. Et puis des mots, au cœur d'un festival, nous avons le grand bonheur de dresser le couvert en direct et en public. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait chaud au cœur d'être à nouveau dans une émission en extérieur, en direct, en public. Je crois que la dernière remonte à novembre 2019. C'est dire si on est vraiment heureux de venir à votre contact. Bienvenue à Mots pour Mots. C'est un salon littéraire qui dure tout le week-end et qui célèbre le livre ici à Paris, à la Grande Halle de la Villette, mais aussi dans 250 librairies réparties dans toute la France. Au programme, 40 discussions thématiques, des rencontres avec des romanciers, des auteurs de bandes dessinées, des dédicaces. Et voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. C'est une grande actualité littéraire. Au menu de notre émission, on va déguster des livres de cuisine, évidemment. Et cette question qu'on se pose aujourd'hui, comment le livre de cuisine peut être le testament d'un héritage familial, un objet de transmission d'une mémoire culinaire? Cuisine et descendance pourrait s'appeler cette émission. On évoque ce sujet avec deux auteurs. Eva Bétan, bonjour.
Bonjour.
Une grande voix de France Inter qu'il n'est plus nécessaire de présenter à nos auditeurs qui vous connaissent bien évidemment. Vous êtes journaliste à France Inter, critique cinéma, responsable aussi du Livre Inter. D'ailleurs, on verra avec vous que la 42e édition du prix du Livre Inter sera dévoilée vraiment très prochainement. Hein.
Demain matin, les délibérations ont lieu cet après-midi.
C'est ça, et vous filez d'ailleurs juste après l'émission parce que vous avez beaucoup de travail sur la planche.
Oui, oui, et puis c'est formidable, c'est un moment fermé au public parce qu'il faut garder la confidentialité, mais dont tous les participants se souviennent.
Vous aurez quand même juste le temps avant de participer à notre émission, Eva, et de signer aussi votre livre à midi, hein, en public. Voilà. Le goût de nos mères, 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle. C'est un ouvrage coédité par Stock et France Inter. Un très bel hommage, on va le voir, un hommage collectif, mais aussi un hommage personnel à la mère. Un livre riche en émotions, en souvenirs et en saveurs. Et puis avec nous également, ah, j'ai presque envie de dire, une grande habituée dont on va déguster tellement on aime l'écouter et tellement on salive quand on déguste ses recettes. C'est Sonia Esgulian, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous publiez « Ma petite cuisine potagère » aux éditions Flammarion et c'est aussi une histoire de famille. Les photographies sont signées par votre compagnon Emmanuel Auger, bah voilà, qui est juste là au premier rang. Il veille sur Sonia. Vous avez également conçu de magnifiques collages et c'est un livre de recettes que vous avez enraciné, pourrait-on dire, dans le potager de votre père. Vous nous racontez cette relation qui vous unit au paternel et vous allez nous faire goûter quelques recettes que vous avez préparées, de très belles recettes potagères, printanières, exactement comme on les aime. Pour fêter le retour de notre émission en public, j'appelle notre chroniqueuse Elvira Masson, notre libraire gourmande Déborah Dupont, notre chroniqueur vin Jérôme Gagnaz, ils sont trois. Bonjour à tous les trois.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Elvira.
Du Bénin au Texas.
Jérôme.
Nous allons aimer et meringue.
Déborah.
Chambre de bonne.
Les recettes de nos invités, toutes nos infos pratiques, le podcast de nos émissions et de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page « On va déguster ».
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
J'ai entre les mains le livre qui fait recette en ce moment, dans tous les sens du terme. Excellent démarrage pour le goût de nos mères, 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle. Stock France Inter, sorti le 12 mai. Avec déjà quelques réimpressions à la clé, que se passe-t-il ?
Moi, je ne sais pas du tout. Ça me semble extraordinaire. Je l'ai fait en toute naïveté, en toute innocence. Et c'est comme un cadeau que ça puisse plaire aux gens. Ça me touche infiniment.
Preuve que ce livre dit quelque chose de l'universalité du sujet que vous abordez.
Oui.
Hein.
Oui.
La recette maternelle. Et c'est un livre qui fait recette, évidemment, au sens propre, puisqu'il en comporte, alors j'en ai compté, 71 ou 72 de recettes. Et ces recettes ont en commun, évidemment, d'être des recettes maternelles que vous avez collectées auprès de votre propre maman. Vous allez nous raconter la genèse de votre livre, mais également auprès de 70 personnalités, des proches, des connus, des inconnus, des copains de la maison de la radio.
Oui, il y a Daniel Messager, Jacqueline Pétrose, François-Régis Gaudry, vous le connaissez?
Ah non, je voulais pas. Je voulais.
Il y a aussi des jurés du livre Inter.
Absolument.
Voilà, il y a des strates de ma vie.
Et il y a par exemple, Lison Maklovitch, qui ne dira certainement pas grand chose à grand monde. C'est une amie d'enfance que vous avez connue au Maroc. On entendait justement un extrait de sa prose lu par Laure Grand Besançon en attaque de cette émission. Preuve qu'une recette maternelle, c'est toujours quelque chose d'assez fragile, d'assez impalpable, assez compliqué à retranscrire et à transmettre.
Oui, et c'est Lison et moi, on était à l'école ensemble et on s'est connus enfants au Maroc. Et puis sa famille a émigré au Canada, mais sa mère a emporté avec elle ses recettes. Vous voyez les destins. Ses enfants aujourd'hui sont des musiciens. Sa grand-mère serait étonnée de du genre de musique qu'ils font. Et dans l'escalier, ils reconnaissaient l'odeur de chez mamie. Et c'est cette omelette au four. Elle est pas difficile à faire et c'est vraiment très bon. Ma mère la faisait aussi, ma grand-mère la faisait aussi. Et effectivement, on l'a refait. C'est presque ça. C'est pas tout à fait ça. Et on est content que ce soit pas tout à fait ça. Parce que si c'est pas tout à fait ça, ça veut dire que le souvenir de la mère est là. Ça veut dire que nous-mêmes, on va transmettre quelque chose aux enfants d'après. Et pour eux, notre recette, ce sera la recette. Mais il manquera aussi quelque chose. Et c'est la continuité de la vie. C'est ça ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un peu du passé, un peu du présent et un peu du futur dans une recette. Et c'est joyeux.
Et on a le sentiment justement, et c'est peut-être le point commun de toutes ces recettes maternelles, c'est que finalement la recette de la maman, c'est une chimère ou une utopie qu'on essaye d'atteindre. Comment vous l'expliquez? Parce que on peut demander à sa maman à travers, même si on sait que c'est compliqué de retranscrire à travers des proportions précises, puisqu'une maman dit toujours, tu nous mets un peu précis,
tu verras et tu goûtes.
C'est pas très précis, mais même quand
la
on
cuisine,
arrive.
C'est les yeux, il y a des phrases comme ça, vous voyez.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ta main. Alors, selon des phrases, on a tous entendu des phrases de ce genre.
En général, les récits des mamans sont assez impressionnistes quand elles racontent leurs recettes.
Ma mère, par exemple, ne mettait pas la quantité de farine. Elle mettait farine. Je dis, mais, et elle disait, une pâte consistante ou ferme. Tu sais quoi la différence pour moi? C'est pareil, ferme et consistante. C'est pas exactement pareil. Donc, il faut faire aussi de l'analyse. Ça vient, on veut croire qu'il y a un peu de magie dedans. Et il faut pas enlever l'idée de la magie.
Mais est-ce qu'en plus des ingrédients objectifs d'une recette, les proportions, les grammages, les gestes techniques, même quand ils sont scrupuleusement retranscrits, il y a toujours ces ingrédients, magique, impalpable.
Je ne sais pas comment appeler ça.
Qu'on peut difficilement retrouver pour le coup.
Oui, il y a un moment, il y a un sourire, il y a le souvenir que vous en avez. Ça renvoie à la partie, je dirais, la plus belle des relations mère-enfant. Il peut y avoir des conflits. Tous les gens qui témoignent là ne sont pas des enfants béats. Mais c'est la plus belle partie de la relation mère-enfant, j'ai l'impression qu'il revient quand on évoque ça. Parce que ça vous ramène aussi, au sens propre du terme, par moments, j'ai eu l'impression que les gens retombaient en enfance. Et alors, c'est pas que des recettes dans ce livre, puisque soit des gens, par exemple, comme Amine Malouf, ont écrit un texte eux-mêmes, ou David Lopez, qui est un écrivain, qui ont fait des très beaux textes, soit j'ai eu des entretiens avec eux, et j'ai essayé de rendre l'âme de ce qu'ils disaient à travers des textes que j'ai écrits, et que je leur ai soumis. Car il n'était pas question que maladroitement, par un mot, je puisse les blesser. C'est leur intimité.
Ou les trahir.
Des choses. Il y a une personne, je dirais pas laquelle, qui a mis un mois et demi à ouvrir la pièce jointe. Tellement elle était émue. Mm-hmm. Et elle m'a dit, Eva, vous ne m'avez pas trahi. Et pour moi, c'était le plus important.
C'est certainement la spontanéité de votre démarche. Son côté presque naturel qui explique le succès de votre livre aujourd'hui. C'est pas un livre concept, c'est pas une commande d'éditeur.
C'est un truc de vieille petite fille sentimentale.
Mais c'est surtout.
J'ai pas trouvé d'autres définitions.
C'est surtout parti de votre propre histoire.
Oui. C'est parti de ma mère. Et je l'ai fait pour la faire rire. Et je l'ai fait parce que, à un moment donné, c'est arrivé à certains de ceux qui nous écoutent, ça arrivera peut-être à d'autres. Quand les mères vieillissent, il arrive qu'elles se désintéressent de la cuisine. C'est un signe de fatigue. C'est une étape est franchie et c'est généralement pas dans le bon sens. Et donc, je me suis dit, mais comme ça, ça ne correspond à aucune analyse. Je veux garder le goût de ma mère, mais je voulais aussi garder son sourire, je voulais tout garder. Donc, c'était pas du tout dans une idée que je trouvais terrifiante de testament, donne-moi tes recettes. Non, pas du tout. C'est une idée, on va rire, on va s'amuser.
Et d'entretenir un lien avec elle.
Ce sera nos contes, comme je dis, des mille et une nuits. Et surtout, ne pas, je ne voulais pas aborder de sujet grave. C'était en riant, c'était en buvant du thé à la menthe, parce que je viens du Maroc, et le thé à la menthe reste un marqueur. Donc c'est en buvant beaucoup de thé, en s'ébouillantant quelquefois, en riant, et en se disant qu'on a tout le temps. Et que jamais se dire que le temps est compté. Puisque ma définition, c'est que les mères sont éternelles.
Alors, votre maman n'est plus de ce monde, mais en tout cas, vous avez...
Mais les sentiments demeurent.
Évidemment.
Je ne crois pas à ce qu'on dit de... Il n'y a pas un temps de ceci. Pourquoi l'amour s'en irait quand les gens ne seraient plus là? Donc, la cuisine est une manière joyeuse de se souvenir.
Et d'entretenir une mémoire.
Mais c'est dans la joie. Vous ne mettez pas de mots quand vous faites une recette de votre mère. Vous la faites et vous êtes super contente.
Vous évoquiez le Maroc natal de votre maman. On va justement essayer de découvrir davantage son univers. Vous lui dédiez ce livre votre maman, bien sûr. Vous lui consacrez plusieurs textes qui sont comme de courts récits de vie qui émaillent votre livre. Je vous propose d'écouter un extrait. Elvira Masson à la lecture.
Mon enfance pourrait être décrite avec des accents sombres, mais ma mère la raconte avec le merveilleux des contes. Pas de doute, elle sait tenir son public. La machine à coudre manuelle avec son volant sur le côté, que sa mère tourne à toute vitesse. Les trois sœurs qui font leurs devoirs à la lumière de la lampe à pétrole. Le plat qui mijote au-dessus du charbon de bois. Certains jours, c'est la salade de tomates cuites qui se prépare. Celle que ses petits-enfants aiment tant, au point que, des décennies plus tard, un Tupperware rempli d'une substance rouge, inspecté par des douaniers plutôt perplexes, traversera les océans jusqu'à Kuala Lumpur pour régaler un de ses petits-fils. Cette salade que les trois sœurs mangeaient au cœur de la Médina avec du pain maison parfumé aux graines d'anis. Les contes ont une morale et les enfants de tous âges qui l'écoutent ne s'y trompent pas. Elle leur raconte une enfance heureuse. Même les épisodes tristes ne servent qu'à mettre en lumière l'essentiel. Elles ont été trois petites filles aimées.
Joli, très joli texte, très émouvant. Preuve aussi qu'une recette maternelle n'est pas du tout sédentaire. Elle est très voyageuse.
Pas du tout, ça c'était la recette.
Donc, elle accompagne...
C'est l'enfance de ma mère. Et à l'époque, dans le Maroc, Marrakech des années 30-40, il n'y avait pas l'électricité. Donc ça cuisait au charbon de bois. Après, elle l'a faite sur une cuisinière à gaz, puis au four à induction, aux cuisinières et plaques à induction. Enfin, on est passé par tous les feux. Et un de mes fils a fait un VIE à Kuala Lumpur. Donc, et je vais le voir et il me dit « Apporte-moi, je t'en supplie, une rosette et la tomate cuite de mamie. » Donc je mets une grande rosette dans ma valise, espérant que ça ne pose pas de problème. Mais la tomate cuite, j'avais peur que ça coule, donc je l'ai en bagage à main.
Oh la vache.
Et il y a les douaniers qui regardent ça, qu'est-ce que c'est? Je dis « Grandma food ». Puis peut-être que ça va passer comme ça. Donc, bon, nous avons réussi à passer la douane avec la tomatite, mais il en rêvait.
Et la recette de salade de tomates cuites qui fait très envie est à la page 54 de votre livre. On peut s'y essayer assez facilement avec 4 poivrons rouges, 2 poivrons verts, 5 à 6 kilos de grosses tomates. On est quand même dans des proportions tout à fait familiales. pas mal d'ail, de l'huile neutre, pas d'huile d'olive.
Non,
oui,
pas d'huile d'olive.
Souvent la cuisine méditerranéenne se fait à l'huile neutre.
Mais là non, il ne faut pas que ça fausse le goût. Et il faut vraiment choisir que ce soit la période des tomates à chair, comme les tomates allongées, qu'elles soient mûres mais pas molles. Il faut enlever donc l'eau des tomates, les éplucher. Alors avant on les ébouillantait, maintenant il existe un truc génial, c'est le couteau épluche tomate.
Oui.
Ça c'est formidable. Et ma mère, alors chacun a sa main. Ma mère les coupait toujours l'idée dans la cuisine marocaine, il y a l'idée que ça doit être joli. Et si vous les coupez en gros morceaux, elles vont confire, mais en gardant de la substance, ça fera pas une sauce tomate. Et il y a plus de poivron rouge que de vert parce que le vert c'est juste pour la couleur. Le vert est plus amer. Ça a moins bon goût, donc vous mettez peu de et vous mettez pas l'huile tout de suite.
D'accord.
Il faut laisser d'abord l'eau s'évaporer. Après, vous allez mettre l'huile petit à petit. Donc et dans une marmite, surtout pas une poêle.
D'accord.
Une poêle, ça donne pas le même effet. Donc voilà, c'est tous ces petits détails et que ma mère dit. Mais surtout, comme si j'allais commettre une hérésie, mais pas une poêle. Sinon, t'inquiète pas, maman, tout va bien.
Et la recette de salade de tomates cuites de votre maman est à disposition de nos auditeurs sur franceinter.fr à la page On va déguster. Preuve qu'on a tous, chacun, dans notre fort intérieur, une recette de maman, allez, juste comme ça au débeauté, un petit tour de table, nos chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi que Sonia Esgulion, comment ça allait? Avec la première personne sur ma gauche, c'est Elvira.
Moi, c'est pas vraiment une recette, c'est plutôt qu'à cette époque-ci de l'année, ma mère faisait systématiquement de la compote de rhubarbe. C'est-à-dire une compote de rhubarbe à tous les repas. Et pour varier un peu les plaisirs, elle mettait des fraises fraîches dans la compote quand la compote était encore chaude.
Mais ça devait l'adoucir un peu aussi.
Ce qui devait l'adoucir, évidemment, donc ça avait une vertu, mais ça ramollissait quand même copieusement les fraises qui se retrouvaient un peu mollassonnes et un peu visqueuses. Or, ce qu'on aime dans la fraise, c'est quand même son croquant et sa juteosité. Donc, j'aimais pas spécialement ça. Et bizarrement, hier, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait une tarte avec une crème d'amande avec des fraises et de la rhubarbe.
Donc aimer une recette qu'on a détestée avec votre maman qui vient de Suède, moi j'appellerais ça le syndrome de Stockholm.
Joli.
C'est ça, hein?
C'est un peu ça, oui. Ouais. Je l'ai fait comme ça, un peu en pilotage automatique. La transmission, c'est peut-être aussi ça. On c'est pas forcément la transmission de quelque chose qu'on aime vraiment.
Et on peut, et le temps peut métamorphoser et bonifier une recette qu'on peut trouver un peu moyenne. Et même si objectivement elle est moyenne dans l'assiette aujourd'hui, on l'aime parce qu'elle nous rappelle des choses après lesquelles on court et que l'on cherche. Jérôme Gagnez.
Moi, c'était un souvenir qui me revient. C'est les oignons qui rissolent dans la cocotte. Et ensuite, il y avait un rôti de porc qui cuisait avec des pommes de terre qui étaient simplement épluchées et qui cuisaient dans le jus. Et les pommes de terre prenaient toujours une couleur un peu brune, un peu marron.
Un peu cuivré.
Un peu cuivré, exactement. Je n'ai jamais réussi à le refaire. Et quand maman, comment elle fait, elle me dit, tu fais comme ça. Je dis, ah bon, ok. Et je pense que je n'ai pas envie de réussir.
C'est l'humeur, c'est la découpe, c'est la marque du couteau, c'est
tout ça.
Le matériau de cuisson.
Et ce jus qui était un petit peu réduit, mais pas trop, avec une bonne moutarde à l'estragon, c'est un souvenir merveilleux.
Je t'échange ça contre un peu de compote de rhubarbe.
Oui, c'est ça.
Volontiers.
Ça fait sacrément saliver. Ouais. Déborah Dupont, un souvenir maternel.
Moi, ce sera la choucroute, mais attention, une choucroute juive, donc cachère, c'est-à-dire avec de la charcuterie de tout sauf de porc.
Ouais.
Donc la choucroute, non plus, maman la commence 4 jours avant, je pense, à peu près, parce qu'elle va faire cuire le chou, mais pendant 3 jours. C'est-à-dire que tous les soirs, elle rentrait du travail, donc c'était dans une grosse cocotte en fonte avec de la graisse d'oie, le chou qu'elle faisait caraméliser avec de la bière. Donc sur 3 soirs à peu près, et puis ensuite le soir de la choucroute, il y avait donc toutes ces charcuteries à base d'oie, à base de veau, à base de bœuf.
Waouh.
Ouais, non, c'est assez exceptionnel.
Elle refait ça de temps en temps?
Elle, c'est son dîner avec sa bande d'amis qu'elle appelle les amis du bac à sable, puisqu'ils se sont rencontrés quand nous, les enfants, on s'est rencontrés à la sortie de l'école. Donc les parents sont devenus amis. Et donc 30 ans après, ils continuent de se voir. Et une fois par an, donc quand c'est elle qui reçoit, c'est la choucroute.
Et elle peut prévoir un invité en plus?
Moi, c'est ce que j'allais dire.
On se fait ça, il n'y a pas de problème. Il y a des amateurs, a priori, aussi dans le public.
Je serais très heureux de goûter ça. Et Sonia Esgulion, dans un instant, on va parler évidemment du potager de votre papa Nicolas, accessoirement aussi de votre grand-mère d'origine arménienne, comme l'indique votre patronyme, mais vous avez aussi une maman qui a un rapport particulier à la cuisine.
Mais oui, elle m'a appris plein d'autres choses que des recettes, en fait. Elle m'a appris sa philosophie de vie. Je dirais que c'est entre la culture du beau, parce qu'elle aime beaucoup faire des jolies tables. Et alors, elle a une cuisine tout en liberté que j'adore. C'est la reine du Tupperware. Elle sait faire des trucs incroyables. Elle a des ustensiles. Elle fait notamment un brownie moelleux. Emmanuel, mon mari, en est fou. On ne sait pas comment elle fait. C'est cuit un petit peu dans un accessoire, donc en silicone, avec, j'imagine qu'il y a une partie de la cuisson au micro-ondes. J'adore sa liberté. En fait, elle me fait rire et elle apporte chaque jour beaucoup, beaucoup de choses.
Elle vient quand même d'une génération où il ne fallait pas passer trop de temps non plus au fourneau. Il fallait que ce soit rapide, efficace, astucieux.
Voilà, moi, je suis née en mai 68, donc ma maman, c'était mini-jupe, la clope au bec, et on vit la vie. Et ça aussi, c'est important, de vivre les choses à fond. Je trouve que c'est une belle chose à transmettre.
C'est parfait, on va vous retrouver Sonia dans un instant, justement après notre petite pause musicale, pour évoquer le potager de votre papa. Il y aura aussi d'autres souvenirs racontés par Eva Bétan. Derrière la console, Laurent Thomas, Julien Dumont, Loïc Duros, Nadia Chougui. On se retrouve juste après Silk Sonic, un groupe composé de Bruno Mars et Anderson .Paak, Leave the Door Open, un titre sensuel parfait en ce dimanche ensoleillé. Bon appétit sur France Inter.
France Inter, en direct du festival Mot pour Mot, dans la grande halle de la Villette, à Paris.
Sip, sip, in a road trip. I look too good, look too good to be alone. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So
on va déguster en direct de la grande halle de la Villette au festival Mot pour Mot pour évoquer les livres de cuisine et la question de la transmission culinaire en famille. Merci beaucoup d'être présents et d'être venus si nombreux en respectant évidemment les mesures sanitaires. Sonia Esgulian.
Oui.
Ce livre splendide. Alors avec vous, on Merci. Quitte évidemment le giron maternel pour évoquer le potager paternel. Et c'est en accord avec pas mal de messages d'auditeurs, Elvira d'ailleurs, que nous avons, puisque pas mal de gens nous disent « Et les recettes du papa ?» Il est vrai qu'il y a beaucoup de papas cuisiniers, c'est heureusement. Et c'est une très bonne nouvelle. Elvira ?
Oui, Sarah nous écrit effectivement qu'on parle beaucoup des recettes maternelles depuis qu'on a commencé l'émission, mais n'oublions pas les pères. Je me rappellerai toujours du tagine poulet citron olive de mon papa, lui aussi marocain.
Et si vous avez des témoignages à nous communiquer, n'hésitez pas à nous écrire, chers auditeurs, sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter ou nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com. Ma petite cuisine potagère, un recueil plein de charme, de poésie. J'ai envie de dire, comme d'habitude, même si celui-ci a encore ce supplément d'âme. À chaque fois, vous allez toujours un peu plus loin, Sonia, dans votre démarche. Il est très particulier. C'est en plus une réédition chez Flammarion d'un livre que vous aviez auto-édité. Racontez-nous l'aventure.
Oui, parce que en fait, c'est le premier livre, en tout cas, que je fais très personnel. Je n'ai jamais raconté. En fait, on voyait souvent des photos du potager de mon papa. On voyait quelquefois des petits plats qu'on faisait le dimanche. Et puis un jour, je réfléchissais à la question qu'on me posait toujours. Mais d'où viennent vos recettes? Comment vous trouvez l'inspiration? Et en fait, l'inspiration, c'est ce fameux potager. Donc on a eu l'idée de faire ce livre qui n'a pas tout de suite trouvé d'éditeur. En fait, les gens étaient un petit peu déstabilisés par le côté très personnel. Et dès que le livre est sorti, j'ai eu une telle demande de gens qui souhaitaient l'acquérir. J'ai rencontré les gens de Flammarion qui ont souhaité l'éditer. Donc c'est la nouvelle version, et dans cette nouvelle version, il y a de nouvelles recettes, parce qu'entre-temps, eh bien, dans le potager, comme chaque année, on met d'autres légumes, et notamment la fameuse monstrueuse de New York, qui est une aubergine que j'ai appris à faire grâce à vous, parce que j'ai rencontré il y a quelques années, dans une émission, dont va déguster Arnaud d'Arsonval.
Ah, absolument, la ferme de Sainte-Marthe.
Oui, et puis qui m'a appris des trucs, parce que je me disais, c'est pas possible, je vais jamais réussir à faire pousser ces aubergines extraordinaires. Et il m'a donné les quelques trucs pour pouvoir les réussir.
Et notre émission, effectivement, crée du lien, on en est très heureux. Vous racontez des intrigues culinaires, et il y a effectivement, comme vous le dites, une unité de lieu. C'est le potager paternel. Votre papa s'appelle Nicolas.
Oui.
C'est un maraîcher qui a l'air hors pair. On le voit, on le voit à peu près dans toutes les situations, en train de planter ses semis, à la récolte.
Ah, c'est un travail de toute l'année. Hein. Alors, il n'est pas maraîcher. Hein. Il était ramoneur. Maintenant, il est retraité.
Il est maraîcher amateur.
C'est ma grand-mère qui était maraîchère, Pailoun. Et mon père a toujours fait un potager. Et comme vous le disiez, le potager, c'est vraiment l'endroit qui nous rassemble. On est très souvent ensemble, entre cousins, avec la famille et les amis.
On est dans la région lyonnaise ?
Oui, on est à Saint-Genis-Laval, donc à quelques kilomètres de Lyon. Et donc ce potager est assez petit, parce qu'on peut imaginer qu'il est immense. Mais ce qui me fascine chaque année, c'est comment on peut faire pousser autant de légumes dans une surface relativement, je pense que ça dépasse pas les 40 mètres carrés. Ça me surprend parce que c'est vraiment un potager nourricier. Mon père fait une partie de son potager, parce que je sais pas si je pourrais le dire, mais on a chacun son espace dans le potager.
Et c'est ça qui est intéressant avec ce potager, c'est à la fois, alors, est-ce que c'est un terrain d'entente? Est-ce que c'est un terrain de transmission?
Ah, de négociation.
Et c'est un terrain aussi de négociation. C'est ça qui est, racontez-nous, parce que ça bisbille aussi un peu.
Eh ben, en fait, pendant l'hiver, mon père laisse la terre reposer, il prépare les petits piquets. Alors déjà, ça commence les négociations parce que lui, il veut des piquets bien solides, tout vilains, et moi, je veux des jolis piquets en noisetier, bien poétiques. Donc là, déjà, il faut
conflit
déjà
de génération.
Négocier sur les piquets. Et ensuite, on négocie donc sur les semis et combien de rangs on a droit, parce qu'en fait, mon père fait le potager à l'ancienne. Donc on tire une ficelle, on met des petits repères. Et là, par exemple, cette année, j'avais droit à 42 plantations. Donc c'est comme ça et pas autrement. Donc on respecte les 42. Et pourquoi j'ai droit à des plantations autres que les siennes? Parce que lui, il veut manger des tomates bien rouges et bien grosses et des aubergines qui ressemblent à des aubergines. Donc évidemment, quand je lui ai parlé de monstrueuses de New York, de petites aubergines qui avaient la taille d'un œuf et qui étaient blanches, d'autres aubergines qui sont très longues, notamment les aubergines asiatiques, donc il lève les yeux au ciel, il se dit « mon Dieu, mais comme il m'aime beaucoup, il le fait quand même ».
Et il vous dit régulièrement « Oh là là, faut arrêter les chichis ».
Non, on va arrêter les chichis là quand même. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il m'appelle régulièrement, quand c'est la pleine saison, il m'appelle tous les 2-3 jours en disant « Bon, bah là, il va falloir cueillir, hein, parce qu'il faut les manger, ces légumes ». Et je dis « Mais papa, vous ne les mangez pas, vous. Avec maman, vous pouvez faire même une ratatouille, un plat très simple. » Et donc, aucun des légumes ne sont touchés parce que ils ne sont pas conformes à ce qu'ils aiment faire. Donc, c'est assez drôle.
De la fourche à la fourchette. Et justement, on commence avec une première recette qui est là tout à fait issue, en fait, des conditions de culture de votre potager, si j'ose dire. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des légumes qui sont là en abondance. Et pour ne pas les gaspiller, pour les utiliser en cuisine, il faut effectivement inventer une recette.
Multiplier les recettes.
Adapter à cette profusion, cette abondance.
Oui, c'est ce qu'on apprend, parce que le jardin apprend beaucoup de choses. Je trouve qu'on apprend d'abord la patience, la persévérance, et surtout après, on apprend à se débrouiller, à trouver des astuces et à surtout être très anti-gaspi, parce que quand ça pousse, ça pousse. Donc ça c'est la chose qui est vraie pour tous les légumes. Et la première chose qu'on va cueillir dans le potager de mon père, ce sont les cébettes. Donc il va commencer à planter. Alors chaque année, on négocie pour qu'il plante à une semaine de décalage, mais en fait non, il plante à 3 semaines. Donc au bout d'un moment, on a plein de cébettes.
On rappelle, vous savez ce que ce sont des cébettes ou pas dans le public? On n'est pas tous
oignons,
du sud de la France.
Voilà, des petits oignons tendres, tout jeunes.
Oui, qu'on pourrait comparer un peu à la ciboule des Asiatiques.
On peut, oui, tout
ou à
fait.
La cive des Antillais.
Complètement. Et donc, alors on en cueille énormément. On en met beaucoup au congélateur. On les coupe en tout petits. On les émince très finement. On les met au congélateur pour les utiliser au cours des recettes. Et il y a une recette que j'aime beaucoup. Donc j'en mets souvent dans les fougasses, dans les pains. Et cette recette de galette, alors que j'aurais aimé vous servir chaude, mais bon, elle est froide. C'est une pâte extrêmement simple à réaliser, avec 300 g de farine, 160 g d'eau chaude. Vous mélangez le tout, ça fait tout de suite une pâte. En général, je ne la sale pas, cette pâte, parce que les cébettes, vous allez simplement les mettre un tout petit peu de piment, si vous avez envie, un tout petit peu de sel, et vous allez rouler, en fait, ces galettes en forme de petits serpentins et les étaler et les faire griller dans une poêle. C'est extrêmement simple. Ça permet aussi d'être congelé quand on les a préparés avant de les cuire. Et vraiment, ça peut remplacer un pain, par exemple, pour un dîner avec une soupe toute simple.
Une personne dans notre public s'y essayait à cette petite galette aux cébettes. Bonjour, madame, vous appelez comment ?
Rina.
Enchantée.
Bonjour, donc je viens de Besançon et je m'attendais pas à être ici aujourd'hui, donc c'est une super surprise. Donc le thème est surprenant aussi parce que C'est très émouvant pour moi, puisque la transmission maternelle autour de la cuisine, c'est quelque chose, voilà.
Et vous êtes aussi concernée par ce sujet ?
Je suis concernée par ce sujet. J'adore cuisiner, j'adore le jardin, j'adore mon jardin et j'adore les fleurs. Donc, je suis typiquement là où je devrais être aujourd'hui, à cet instant précis, donc c'est génial. Et donc, je vais parler de... Donc, je viens de déguster votre crêpe. Alors, le premier goût, hein, la première, c'est très parfumé. On sent l'oignon et on sent... c'est très fin. C'est vraiment... Et le deuxième, vous dites que c'est une pâte assez simple, mais moi, j'ai eu l'impression de goûter une... C'est une pâte un peu feuilletée. J'ai l'impression qu'il y a du feuilleté et ça me fait penser à une crêpe marocaine un peu.
Alors, c'est la technique, comme voilà. C'est roulé... Voilà. Puis ensuite étalé, on le voit très bien sur le... Je crois que j'ai laissé la recette sur le site de France Inter. Vous verrez, en fait, c'est roulé en une sorte de petit boudin, puis mis en serpentin et ensuite aplati. Il y a de ce fait un tout petit feuilletage qui est très agréable, qui est très croustillant quand on le fait griller à la poêle.
Et du coup, cette saveur-là, qui c'est très parfumé. Et effectivement, peut-être que chaud, il y aurait une exhalaison encore plus importante des saveurs, donc à retenir. Et donc, j'enchaîne sur deux autres recettes, parce que toutes petites, pour récupérer tout ce qu'on ne consomme pas toujours, pour récupérer les restes et tout ça de légumes, je vous conseille les galettes aveyronnaises avec les côtes de bête et toutes vos feuilles vertes. Et puis deux choses. Les poireaux, les feuilles de poireaux à récupérer pour tout ce qui est pour parfumer vos bouillons et tout ça, qu'on a tendance à jeter.
Voilà. 100% d'accord avec vous.
Sonia ne jette jamais rien. On l'a même reçu plusieurs fois pour évoquer une cuisine anti-déchets. Un grand merci pour votre témoignage. Chère madame, merci beaucoup. Et c'est vrai que dans ce potager, Sonia, on vous voit sur de nombreuses photos en train de faire une passata de tomates à l'ombre du figuier, en train de cueillir des aubergines ou des poivrons avec votre père. On voit des photos d'un abricotier qui croule sous les fruits. C'est absolument extraordinaire. On va raconter une autre histoire de cuisine. On reste bien entendu ensemble pour d'autres recettes, chère Sonia. Une histoire de cuisine avec notre libraire gourmande, Déborah Dupont.
France Inter. On va déguster.
Preuve que la cuisine, ce sont toujours des histoires et en particulier des histoires de famille, Déborah.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, donc La cuisine du sixième étage. C'est vraiment un livre atypique.
Ça, il est atypique, hein.
Déjà par le format, effectivement, auteur, par la mise en page, la typo utilisée, la maquette. C'est une histoire de transmission de Gilberte Georges, dite Gigi, à sa petite fille Nathalie, et de Nathalie, ex-directrice artistique connue du tout Paris, à ses voisins du sixième étage, en fait, et à ses lecteurs en trois actes. Acte 1, découverte et apprentissage des sens, des gestes de l'univers culinaire. Acte 2, découverte des aliments de base que sont les pâtelleries avec beaucoup de recettes italiennes, ce qui ne doit pas vous déplaire. Et l'acte 3, le bien manger avec des moyens réduits classés par ingrédients. Alors pourquoi le sixième étage? Tout simplement parce que Nathalie Georges a connu ce qu'on appelle un revers de fortune. Et s'est retrouvée à devoir habiter dans deux chambres de bonne du sixième étage, donc avec une cuisine réduite au strict minimum. Mais elle avait conservé de cette transmission familiale de sa grand-mère des recettes bourgeoises et un vrai apprentissage technique. Elle savait faire la cuisine, donc elle a continué. Et elle a continué, elle a fait profiter notamment les étudiants qui habitaient au même étage en leur faisant partager la soupe ou des choses comme ça. Et moi aujourd'hui, j'ai choisi la mousse au chocolat.
Ouais, que j'ai goûté et que j'ai déjà validé, je peux vous le dire.
Mais en fait, voilà, la mousse au chocolat, parce que moi aussi, ma grand-mère, mais qui est toujours vivante, mamie Yo-Yo, 101 ans, faisait une mousse au chocolat assez extraordinaire. Et la mousse au chocolat, c'est la recette la plus simple. Donc, pour faire cette mousse au chocolat, mettre 125 grammes, et je vais vous lire in extenso en fait, le texte, parce que c'est vraiment un texte de grand-mère. Mettre 125 grammes de très bon chocolat à fondre dans un peu d'eau, alors là tout de suite tout le monde hurle.
Un peu d'eau,
Peu d'eau. Ajouter 100 grammes de beurre. Quand le tout est bien lisse, laisser un peu refroidir, puis ajouter 3 jaunes d'œufs bien mélangés. Battre les blancs en neige, ajouter au mélange lorsqu'il est froid, mettre le tout dans une jatte qui peut être servie à table, mettre au frigidaire au moins 12 heures, couvrir.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et donc effectivement, une jatte qu'on peut servir à table.
Mais oui, mais ça fonctionne. Oui, alors bon, vous avez un peu d'expérience, vous savez déjouer les pièges lorsque vous lisez.
Mais là, il n'y a pas de piège.
Ouais. Enfin, un peu d'eau, c'est subjectif. Enfin, qu'est-ce que c'est
qu'un peu d'eau? Combien un peu d'eau, du coup? Alors là, je vais être honnête, moi, le chocolat avec un peu d'eau, de toute façon, tous les chocolatiers, les pâtissiers que je côtoie me disent que c'est une hérésie. Donc, j'ai tout simplement fait fondre mon chocolat dans mon beurre.
Voilà.
Voilà.
Donc vous avez déjà déjoué un premier piège.
Mais c'est pas vraiment un piège. Ouais. Le chocolat, même si vous mettez un peu d'eau, ça gâchera pas la recette. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'on a cette densité en bouche qu'on a effectivement sur les mousses au chocolat de mamie. Il y a pas de sucre.
Quel chocolat vous avez utilisé?
J'ai pris du chocolat de supermarché.
Franchement, ça donne un très bon résultat.
Du Nestlé, pour ne pas citer, mais qu'on trouve dans n'importe quel supermarché.
Une très belle onctuosité.
Et en plus, c'est servi sur une part de brioche, ce qui évidemment ne gâche rien.
Alors j'ai mis la recette de brioche, donc vous l'avez aussi sur le site.
Et Nathalie Georges, elle raconte également aussi les recettes italiennes qui sont des souvenirs de vacances, notamment quand sa maman l'emmenait dans le nord de l'Italie.
Tout à fait, donc c'est vraiment un livre très émouvant, avec des recettes qui en plus sont vraiment des recettes faisables à la maison, bien expliquées, bien transmises. Et c'est un ouvrage que je recommande, donc La cuisine du sixième étage, du piano au réchaud, édition Hérodote. Donc il coûte 20 euros.
Un bouquin vraiment charmant et qui sort des sentiers battus. On va revenir un peu avec vous, Eva Bétan, preuve justement que la recette maternelle est une espèce de trésor ou de chimère difficile à capturer. On en a un très très bel exemple dans un texte qu'on a beaucoup aimé. Il y en a évidemment beaucoup des textes, mais certains auteurs vous ont fait la gentillesse d'écrire leurs propres souvenirs. Alors on a évoqué évidemment Amine Malouf, mais on a également un jeune auteur que vous appréciez particulièrement. Vous avez une petite histoire avec lui, il s'agit de David Lopez. Présentez-le-nous.
David Lopez a eu le prix du livre Inter en 2018.
C'est
pour
ça.
Un livre qui s'appelle Fief. Formidable livre. Qui est avec deux jeux d'écriture. D'abord, il écrit un peu comme des gosses de banlieue. Et puis après, il a un langage plus soutenu au début. On se dit, mais mon Dieu, tout un livre comme ça. Et c'est un livre formidable sur des jeunes qui cherchent à trouver leur place. Il est élu au deuxième tour de scrutin, qui arrive très rarement que ce soit dès le deuxième tour. Il nous rejoint le soir pour dîner. C'est un gamin. Il a 33 ans. Il en paraît 25. Tous les jurés lui parlent comme si c'était leur fils. Le lendemain, je lui dis, qui avez-vous envie d'inviter à déjeuner? Si on invitait vos parents, et il invite ses parents, et des gens formidables, et on est là, on regarde ce jeune qui a l'air d'être devenu le fils de tout le monde. Et donc c'est pour ça que j'ai dit à David Lopez, que voyant ce lien avec ses parents, écrivez-moi un texte, parce que David, pour pouvoir écrire, ses parents ont fait le cadeau formidable en disant « Prends ton temps d'écrire, tu habites chez nous ». Et un jour, David a quitté la maison. Et c'est ça qui est le départ de ce texte.
Absolument.
Formidable.
On vous propose un extrait du texte qu'il a écrit pour votre recueil de recettes. Il s'intitule « Les chichards ».
D'abord, j'ai réuni les ingrédients alignés devant moi sur le plan de travail. Huile d'olive, oignon, ail, chorizo, haricots blancs, un cube, sel, poivre, cumin. Elle a dit que c'était facile, que je devrais y arriver sans mal, et quelque part, je n'ai pas envie d'entendre ça, parce que ça me plaisait, à moi, d'imaginer que ce plat de ma mère, que je chéris tant, et que je suis sur le point d'apprendre à préparer, relevait d'une sorte de pouvoir magique dont elle seule disposait. Elle a l'air émue dans l'écran du téléphone, prête à superviser la cuisine de son fils. On fait semblant de rien, mais nous savons tous les deux que nous nous apprêtons à couper le cordon avec une cuillère en bois. Elle a dit que je devrais utiliser soit une casserole profonde, soit carrément une marmite. J'ai opté pour la marmite. Ça me donne l'impression de faire quelque chose de très important, comme si j'allais nourrir tout le village avec mes chichards. Je me demande comment on peut atteindre systématiquement un résultat remarquable avec aussi peu de méthode. Quand est-ce que je mets les haricots? Bientôt, rajoute un peu de cumin. Mam, mon cerveau n'est pas capable de recevoir cette information. C'est quoi, un peu? Elle répond, un peu c'est pas beaucoup. Laisse mijoter. Combien de temps? Jusqu'à ce que ce soit bon, tu goûtes pour savoir, elle dit. Ça, je sais faire.
Vous avez reconnu la voix d'Inter?
Oui.
Vincent Josse.
On se connaît
très bien,
je sais.
Je connais Vincent.
Et c'est lui qui a effectivement lu pour nous la prose de David Lopez sur fond de PNL, parce que c'est en écoutant ce groupe de rap PNL que David Lopez a écrit Fief. Vincent Josse d'ailleurs, que l'on retrouve tout à l'heure dans ce studio à 15h, pour un grand atelier en direct avec une myriade d'invités. En parlant du livre Inter, c'est donc demain.
Oui.
Le président du jury, Dany
Laferrière. Dany Laferrière, 24 jurés, et l'annonce est dans le journal de 8h.
C'est ça. Sonia Esgulian, votre cuisine familiale, ce sont évidemment les recettes et les légumes, surtout les légumes de votre père, les recettes de votre grand-mère arménienne, mais il y a aussi... Et c'est en cela que votre livre est aussi très émouvant. Un recueil à votre belle-mère, qui n'est autre que...
Dany.
Dani, oui, la chanteuse. Précisons que Dani est la maman de votre compagnon Emmanuel Auger, qui est lui-même photographe de votre livre. Et s'il y a bien un légume associé à la chanteuse Dani, allez, on fait un petit test. Qui saurait me donner le nom du légume associé à Dani? Une chanson de 1967.
Oui, il y a un indice parce que il y a une assiette qui est en train de passer. Donc,
Alors, je vous propose une chose. C'est une chanson, moi personnellement, que j'adore, qu'on a déjà passé plusieurs fois dans l'émission. 1967, une chanson écrite par Frédéric Botton. On la retrouve en version 2020 dans son dernier album Horizon Doré. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Feuille à feuille, moi j'ai feuille, mon artichaut, béchamel, je le pèle, cet artichaut, vinaigrette, est-ce bête, un artichaut, mais si tu m'aimes, donne-moi même cet artichaut. Si la dame a le cœur gros, au lieu de lui gratter le dos, si la dame a le cœur gros, offrez-lui un artichaut. Comme une rose, je le pose, cet artichaut.
Racontez-nous l'histoire de cette reprise, donc la chanson de votre belle-mère, Les Artichauts, qui vous inspire une recette, mais qui sur laquelle elle a aussi rebondi.
Ce qui est très drôle, c'est que pour la première édition du livre, donc l'auto-édition, dans le livre, on avait glissé une petite carte. C'est une photo d'Emmanuel, un artichaut en très gros plan, un artichaut incroyable, magnifique. Et quand Dani a reçu l'ouvrage avec la petite carte, elle m'a dit « Écoute, ça m'a fait repenser à cette chanson ». Elle était en train de faire son album et elle me dit de toute façon elle était dans les préférés que j'allais refaire et donc là c'est une évidence, je vais la rechanter. Et donc j'ai été très très touchée et donc du coup je me suis dit mais il faut que je rebondisse aussi avec une recette. Donc Dani, il faut savoir qu'elle cuisine très bien et notamment ses vinaigrettes sont incroyables et je me suis dit bah, je vais lui faire une vinaigrette avec quelques ingrédients catalans pour le clin d'œil. Et donc il y a évidemment du vinaigre de Banyuls, des anchois de Collioure et aussi ces fameuses cébettes parce qu'elle met des oignons partout. Donc elle adore ces petits oignons et l'ail. Donc j'ai fait cette recette.
Et cette recette est superbement illustrée à la page 164. C'est un très joli livre, il faut insister là-dessus.
Merci,
le graphisme,
les
photos, mais également la poésie, le charme de tous ces collages. C'est vous qui les avez signés ?
Oui. Parce que en fait, les collages, j'aime beaucoup les réaliser. Ça me permet de réfléchir à la recette. Et là, par exemple, j'avais envie de mélanger l'album de Dani avec cette fameuse histoire. En fait, je la raconte à travers quelques photos que je colle et que je dessine.
Qui a goûté l'artichaut ? Ne me dites pas que l'artichaut vient du potager de votre papa,
si,
quand même.
Si, il y avait trois artichauts hier que j'ai cueillis.
J'ai tout fini, moi.
Alors, Eva, un avis.
Qui ont fini
j'ai tout fini,
assiette.
C'était tellement bon,
vous
j'ai
aimez,
tout fini.
L'artichaut, ça vous parle ?
Ah oui. Bien sûr, l'artichaut, c'est dans tout le bassin méditerranéen, bien sûr. Il y a dans le livre une recette d'une Italienne d'artichaut farci.
C'est vrai.
Elle s'appelle Filomena Ferracane et c'est des Italiens qui ont émigré aux États-Unis.
Génial.
Une histoire d'immigration, il y en a beaucoup.
Les carciofi à l'italiana, ouais. Et c'est effectivement une recette que l'on trouve également dans votre livre Le goût de nos mères chez Stock et France Inter. Je vais tendre un piège parce que j'adore lui tendre des pièges à notre ami Jérôme Gagnès. Bah, c'est tenter un accord avec l'artichaut qui peut-être revient le légume le plus compliqué. On va voir ce que ça peut donner.
On va déguster sur France Inter.
Accord mévin avec notre ami l'artichaut, autant dire...
C'est impossible.
Pourquoi ?
Parce que l'artichaut, il y a un caractère végétal très très marqué.
Une amertume
qui est pas très puissante mais qui est vraiment sous-jacente. Il n'y a pas beaucoup de vin qui résiste. Il y a éventuellement,
Il y a une molécule, paraît-il, dans l'artichaut, excusez-moi de vous couper, qui transforme le goût du vin.
Oui, et ça rend les vins
très métalliques.
Les blancs décèdent avant même d'avoir été dégustés, rien qu'en voyant de l'artichaut. Non, en revanche, il y a un truc absolument magnifique. Il y a un petit restaurant qui s'appelle Naturellement dans le 15e. Il fait une salade d'artichaut crue à la mandoline avec de l'huile d'olive, une huile bien ardente, et puis des copeaux de parmesan. Et avec ça, il y a des très beaux vins oranges d'Italie qui font un accord absolument
vin de macération.
Ouais,
il faut un peu d'amertume.
Oui, il faut. Voilà.
Bon, alors on tient à distance ce merveilleux artichaut. C'est dommage. rouge.
Il était délicieux, il est strident, il y a de la fraîcheur, il y a de l'acidité, il était magnifique.
Et on se rapproche de votre verre où a été versé un vin de couleur rouge, je suis assez perspicace.
Exactement, est-ce que vous l'avez goûté? Est-ce que tout le monde l'a goûté sur le plateau? Je n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, dans le public aussi. Je crois qu'on vous a servi, est-ce que ça vous a plu?
Ah, on voit des têtes qui opinent.
Vous goûtez le premier vin d'un jeune couple de vignerons. Ah. C'est le premier vin, leur tout premier vin. Et je vous parle d'un projet, Eva et Sonia, c'était dans le droit fil de cette transmission. Je vous parle d'un projet que je trouve assez extraordinaire. C'est l'histoire de deux hommes. L'un est vigneron en Bourgogne depuis très longtemps. L'autre est un monsieur qui partage sa vie entre la finance et la passion pour le vin qui vient de se réaliser par le rachat et la reprise d'un domaine en Anjou. Et ces deux garçons qui se connaissent bien, l'un a acheté des vignes en plus de son vignoble bourguignon. L'un a acheté des vignes dans le Beaujolais. Et puis, il se dit qu'il aimerait bien profiter de ça pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes vignerons. Se dire, ben voilà, on va faire une petite pépinière de vignerons dans le Beaujolais. Et puis, l'autre lui dit, ben moi, je t'apporte un petit peu de moyens financiers et puis aussi de l'aide, de mon expertise aussi en matière d'entreprise. Et résultat des courses, ça s'appelle les jeunes pousses, le domaine des jeunes pousses. C'est Thibault Liger-Belair qui est vigneron en Bourgogne. C'est Yvan Massonna qui vient de racheter le domaine Belargus en Anjou, qui est un type, on reparlera d'Yvan parce que c'est un monsieur formidable. Et Thibault et Yvan ont créé les jeunes pousses. Et donc maintenant, eh bien, c'est, en fait, le principe, c'est simple, c'est qu'il y a 5 hectares de vignes. Mmh. C'est un petit domaine qui est en co-gérance avec un couple de jeunes vignerons. En l'occurrence, le premier couple de jeunes vignerons qui participe à cette aventure, c'est Hugo Foisel et Angela Kiblier. Eh bien, ils sont en co-gérance sur ce domaine. Donc, Thibault, il dit, voilà, vous avez 5 hectares, c'est vous qui gérez absolument tout, c'est vous qui signez les chèques. La seule obligation que vous avez, c'est de faire de la culture bio. Vous faites vos vins, vous les élevez, vous les vinifiez, vous les récoltez, vous les commercialisez, et vous faites en sorte que ça fonctionne. Et donc, ils ont 3 ans pour se faire la main, pour apprendre, pour s'intégrer dans un tissu local. Et puis ensuite, eh bien, ils passeront la main à un couple suivant qui aura à nouveau 3 ans. Donc on aura tous les 3 ans un couple différent, donc des vins d'un style différent, mais toujours avec un point commun qui est le terroir d'Emringes, un très beau terroir du Beaujolais qui est dans le nord du Beaujolais, juste à côté de Chéna. Et donc on goûte ce rouge qui a la petite fermeté tannique qui est propre au terroir d'Emringes, mais à la fois avec un très joli fruit. Donc c'est un Beaujolais de fruits et c'est un Beaujolais de garde. C'est un premier coup, c'est un coup de maître pour moi, c'est un très très joli vin. Ce sont deux vignerons qui ont d'ores et déjà trouvé 2 hectares à vinifier aussi de leur côté. Donc ils sont à suivre de très 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 près, ils sont à surveiller comme le lait sur le feu, parce que ce sont de futurs grands vignerons. Je vous rappelle leur nom, c'est Hugo Foisel et Angela Kiblier. Bravo à Hugo et Angela, parce que c'est délicieux.
Et leur Beaujolais Village 2020 est à un prix...
Et on déguste la Croix, Beaujolais Village La Croix, qui est à 14 € au domaine. Encore une fois, c'est de la vraie viticulture artisanale, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et pour terminer, mille bravo à Thibault Liger-Belair et Yvan Massonna, parce que c'est un très beau projet entrepreneurial, altruiste et philanthrope.
Et c'est pas très loin de chez vous, Sonia Esgulian, vous aimez?
Il est délicieux, franchement, le tannin comme ça, j'aime beaucoup.
Ouais. C'est tout en finesse. Et à la fois soyeux et mordant, c'est vraiment extraordinaire.
Ouais, très joli vin.
Allez, on va quitter justement le Beaujolais, on est même dans le département du Rhône, hein. On est dans le 69, donc vraiment à côté de Lyon, pour prendre le large, on voyage avec Elvira du Bénin jusqu'au sud des États-Unis.
On va déguster. Sur France Inter.
Une autre.
Je pense souvent à la nourriture. À la manière dont elle nous relie à travers les époques et les continents. En réalité, une grande partie de la cuisine américaine puise ses origines dans la cuisine afro-américaine.
On a beau avoir vécu l'enfer et la souffrance, quelque part, au milieu de toute cette folie, on a créé une cuisine.
Voici nos histoires.
La voix que l'on vient d'entendre est celle de Steven Satterfield. C'est un journaliste culinaire américain, ancien sommelier, éditeur de magazines. Et là, en l'occurrence, il est le narrateur et le personnage principal d'une série documentaire en 4 épisodes de 56 minutes, dont la diffusion vient de démarrer sur Netflix. Ça s'appelle High on the Hog et c'est traduit en français en La part du lion, comment la cuisine afro-américaine a changé les États-Unis. Cette série est adaptée d'un livre du même nom. Ce livre a été publié en 2011 par la, je ne sais même pas comment la qualifier, la géniale historienne et autrice spécialisée dans les cuisines afro-américaines, qui s'appelle Jessica B. Harris,
qui, vous me voyez venir encore une fois, n'a jamais été traduite en français. C'est un long voyage.
Un nouvel appel aux auditeurs, aux éditeurs français.
Une fois n'est pas coutume. C'est un très long voyage qu'elle a entrepris et qui retrace l'influence des traditions culinaires africaines aux États-Unis, des traditions que les peuples esclavagisés ont apportées au Nouveau Monde, la seule chose qui leur restait. La série, comme le livre, ont une mission, faire découvrir et revendiquer l'importance de cet héritage et la manière dont il a façonné la cuisine afro-américaine, noire américaine et donc américaine tout court. Et donc aussi une manière de réparer la part mésestimée au mieux et souvent consciemment effacée de cette culture noire. Alors dit comme ça, ça peut faire un peu manifeste, peut-être un peu scolaire, un peu théorique. La prouesse qui est vraiment saisissante de cette série, c'est de parvenir à faire ça, à rendre justice, à changer un petit peu le cadrage, en quelque sorte, en proposant une expérience puissante, joyeuse, festive, appétissante, émouvante, qui tient beaucoup à la personnalité aussi chaleureuse que discrète du narrateur qu'on a entendu dans le son.
L'extrait du début. Ouais,
Steven Satterfield, qui débarque dans le premier épisode sur la terre de ses ancêtres, aux côtés de Jessica Harris, elle est aussi du voyage, au Bénin, l'un des principaux lieux de la traite des esclaves en partance vers l'Amérique. La série démarre au marché de Dantokpa, un immense marché en plein air à Cotonou, un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest.
J'ai eu la chance d'y aller.
Mais oui, je sais. Quand Jessica Harris saisit une poignée d'okra, et elle s'amuse du fait qu'en français, on appelle ça gombo, ce qui les fait rire, elle et Steven Satterfield, parce que gombo est un grand plat de la soul food, de la cuisine de Louisiane. Ces okras dont elle dit, ils ont fait le voyage avec nous. Il y sera aussi question de niébé, ces fameux haricots cornis en français qu'on appelle black eyed peas, si présents dans la cuisine du sud des États-Unis. On a envie d'être avec eux. D'ailleurs, on se sent du voyage. On a l'impression d'être à table avec eux autour d'un tilapia frit, sauce tomate, purée de manioc, dans le village lacustre de Ganvier. Repas qui rappelle à Steven Satterfield le déjeuner du dimanche de son enfance après l'église dans sa Géorgie natale. C'était poisson, sauce tomate, spaghetti. Deuxième épisode, on quitte l'Afrique pour Charleston, en Caroline du Sud, ville la plus riche d'Amérique fut un temps, capitale de la traite des esclaves, comme elle est nommée dans la série. C'était le port de débarquement des esclaves. On y apprend la façon dont la culture du riz a fait la fortune de la région, culture dont la technique a été enseignée par les esclaves à leurs maîtres. En échange de quoi, les esclaves recevaient les plus bas morceaux de viande, dont ils ont fait les stews et autres viandes braisées qui composent encore à ce jour la base de la cuisine sudiste américaine. Retour au Bénin, rapidement, il y a quelqu'un d'autre qui nous parle de transmission et de mémoire. Elle s'appelle Georgiana View. On l'a connue comme chef du restaurant Georgiana à Marseille. Née à Cotonou, elle portait en elle depuis des années le désir d'écrire un livre. Il est là, Le goût de Cotonou, ma cuisine du Bénin.
Très beau livre. Elle viendra nous en parler au micro dont on va déguster.
Ah, génial. Qui nous rappelle à quel point on connaît peu cette cuisine-là. Et je cite Georgiana pour finir. C'est le carnet de recettes que ma grand-mère et ma mère n'ont jamais écrit. Dans ma culture originelle, la transmission se fait par la parole et surtout par le geste. Les descendants des esclaves noirs américains ont appelé soul food la cuisine du sud des États-Unis. Mais il s'agit d'une émotion aussi universelle qu'irréductible. C'est le sentiment à la fois nostalgique et velouté de l'exil, y compris quand celui-ci est intérieur.
Et oui, il est souvent en question d'exil justement dans la cuisine. Je rappelle vos livres, Eva Bétan qui nous quitte, parce qu'il y a d'autres affaires à gérer, notamment ce prix du livre inter, Le goût de nos mères, un très joli bouquin, 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle. On peut applaudir Eva, merci beaucoup.
Merci
Stop,
à vous.
France Inter, Sonia Esgulian. On serait trop en dire sur ma petite cuisine potagère, vraiment un bouquin plein de charme aux éditions Flammarion. On va goûter avec vous, alors aubergine parce que c'est quand même votre dada. Donc il y a un petit houmous, mais
oui,
également...
Oui, et puis il y a un Imam Bayaldi. Et j'ai fait une toute petite pomme de terre pour parler d'un projet pour Handicap International. C'est un projet qui permet de réaliser des recettes que plein de femmes du monde
Absolument.
Entier m'ont envoyées. Et le projet est à soutenir sur KissKissBankBank, si vous le souhaitez.
Absolument, on peut y aller. Il y a une super recette en ligne, c'est les pommes de terre avec ce
citron. Avec un petit
citron
d'une jeune femme népalaise absolument incroyable, du jus de citron caramélisé qu'elle ajoute aux pommes de terre sautées. C'est fabuleux.
On est obligé de se quitter. La semaine prochaine, retour dans nos studios de France Inter pour une émission sur Napoléon à table. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.